France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Pourquoi elle est fondamentale, cette négociation qui décidément peine à aboutir sur l'emploi des seniors? Eh bien parce que c'est là que se joue la prochaine réforme de l'assurance chômage, parce que c'est là que se joue la gestion paritaire de l'assurance chômage, c'est dire ce qui est en jeu. La réunion promettait d'être difficile, elle l'est toujours et nous y reviendrons. Ce qui secoue chez les syndicats, chez les patrons, dans les partis politiques, chacun évidemment à sa manière, c'est, ça ne vous a pas échappé, que le gouvernement a décidé à donner un nouveau tour de vis à l'assurance chômage. Gabriel Attal assume. Il dit qu'il n'a pas encore tranché entre une baisse de l'indemnisation ou la durée d'indemnisation. Nous entrerons dans les détails, mais c'est cette option 2 qu'elle accorde apparemment, passer de 18 à 12 mois, peut-être 14. Le gouvernement mise sur un effet incitatif pour les chômeurs en fin de droit, activer leur retour à l'emploi, alors que le chômage a cessé de descendre ces derniers mois, venant contrarier les promesses ou les objectifs de taux de chômage à 5%. Le calcul du gouvernement, c'est de dire que c'est l'emploi qui finance le modèle social et c'est l'emploi qui rend flou par là même les caisses. La réponse des syndicats, qui sont tous vent debout, y compris chez les cadres d'ailleurs, c'est de dire qu'on tape sur les plus faibles et que l'on part trop souvent du principe que les chômeurs sont responsables tout ou partie de leur situation. Voilà le schéma du moment auquel s'ajoute une nouvelle fracture au sein même de la majorité. Et c'est là que nous partons donc avec vous, qui êtes chômeurs, mais peut-être qui êtes aussi chef d'entreprise, qui avait du mal à embaucher, vous qui êtes salarié, vous qui êtes proche de l'âge de la retraite, ou au contraire qui êtes dans l'âge de la retraite aujourd'hui, vous nous direz si des mesures autour de l'assurance chômage feront revenir vers vous, les demandeurs d'emploi. Appelez-nous, vous aussi, les seniors, on est ensemble pendant deux heures, jusqu'à 20h, pas pendant deux heures. C'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Parce que même les bonnes choses ont une fin quand même. Allez, le premier c'est vous, Eric, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre mon appel. Félicitations pour votre émission. En quelques mots, 61 ans, licencié comme cadre à 53 ans, malgré l'envoi sur une période de 6 ans d'un peu plus de 350 CV et de candidatures spontanées ou de réponses à des offres d'emploi, aucune réponse. J'ai reçu 10 réponses et 2 rendez-vous. J'ai truqué à certains moments mon CV pour voir s'il y avait une sélection par l'âge, ce qui était le cas. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je changeais, j'abaissais de 10 ans mon âge, eh bien, je recevais effectivement une réponse et une proposition de rendez-vous. Donc, à l'époque, j'avais bénéficié de 3 ans de chômage qui sont transformés, faute d'emploi, en apport pour la création de micro-entreprises. Pôle emploi m'ayant fortement encouragé à opter pour cette voie pour laquelle ils incitaient tous les seniors qui faisaient partie du groupe dans lequel j'étais. Plus de 600 seniors au chômage en longue durée sur la zone ouest, nord-ouest de l'île, à l'époque. Et puis malheureusement, voilà, micro faute de trésorerie, pour différentes raisons, mais essentiellement pour ces raisons-là. Faillite, tentative de suicide il y a 2 ans, à la rue, et puis heureusement grâce à des amis et au secours populaire, et aussi à une structure méconnue d'intérim social. J'ai pu retrouver le chemin de l'emploi, d'abord comme classique pour beaucoup malheureusement de seniors, dans des travaux de type entretien de bureau, ménage, etc. Et puis ensuite j'ai eu l'heureuse surprise de rencontrer et d'être contacté via la société d'intérim par une PME située dans le secteur industriel, avec deux futurs responsables, la trentaine, Elodie et Kathleen, qui m'ont fait confiance, qui ont été étonnés que mon CV assez conséquent, ancien universitaire, ancien formateur, créateur de start-up dans les années 90,
etc. Et mis tant de temps à intéresser un employeur, j'imagine que c'était ça leur étonnement, Eric.
Ah oui, voilà, c'est que je n'avais rien trouvé pendant 6 ans.
Ouais.
Voilà. Donc j'ai fait une première année d'intérim. Au bout de cette année, ils ont vu, j'ai même été présenté lors d'une présentation, parce que c'est une filiale d'un grand groupe, comme recrutement pépite. J'ai trouvé le terme assez chouette. Et je trouvais bien qu'il résumait bien aussi l'emploi des seniors. Voilà. Mm-hmm. Les seniors sont souvent des pépites. Alors effectivement, moi j'ai un profil senior particulier, c'est-à-dire que je suis toujours apprenant et toujours à la recherche d'innovation, mais aussi à l'écoute de des problématiques des entreprises actuellement. Donc ça, c'est un élément important à signaler.
Et une dernière chose, Eric, rapidement, s'il vous plaît.
Une dernière chose, c'est que à l'issue de cet intérim, ils ont voulu me garder. Donc malheureusement, le groupe auquel appartient cette entreprise limite l'embauche des seniors, voire va plutôt à l'encontre. Et donc ils m'ont proposé seulement, ils ont pu me proposer seulement un CDD. Et malheureusement, un CDD court. Et effectivement, une des solutions que je trouve intéressante, une des pistes, c'est pour l'emploi des seniors. Ça serait un CDI senior. Ah. Alors pas forcément dans les conditions
On va expliquer aux gens qui nous écoutent, Eric, pardon de vous interrompre, mais je voudrais bien qu'on puisse présenter aussi nos invités autour et puis donner la parole à ceux qui nous écoutent. Mais le CDI senior, ça fait partie des choses qui sont effectivement sur la table. Je vais vous présenter les gens qui sont autour de cette table ce soir et qui vont dialoguer avec vous. Tiens, je commence par là. Il y a Yael Gauze, le chef du service politique de France Inter. Bonsoir Yael.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Il y a Stéphane Carcillo, vous êtes économiste et chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Bonsoir.
Bonsoir.
Et il y a Olivier Guivarch. Bonsoir Monsieur Guivarch.
Bonsoir.
Secrétaire national de la CFDT, c'est vous qui participez aux négociations du MEDEF sur le fameux pacte de vie au travail. On va répondre à Eric dans un instant, et notamment sur les CDI seniors. Ce qu'il nous raconte, c'est vraiment un passage difficile, c'est même une descente, une tentative de remonter. Juste en un mot, Olivier Guivarch, puisque vous êtes là et que vous participez à cette discussion, on est content que vous soyez là, ça veut dire qu'il y a eu une pause, que vous allez retourner. On en est où, en fait?
Alors, la négociation est suspendue. Nous allons reprendre dans quelques heures, je l'espère. Impossible pour moi de dire dans quel sens...
Vous n'allez pas nous dire dans le fond où vous en êtes, bien sûr. Ouais.
C'est impossible, en fait. Aucun négociateur autour de la table ne peut dire ce soir que nous allons conclure favorablement. Est-ce qu'il y aura un accord? Est-ce qu'il y aura un désaccord? La négociation porte sur l'ensemble des mesures à prendre pour maintenir en emploi les seniors dans les meilleures conditions, pour lutter contre les stéréotypes, les préjugés dans l'embauche des seniors, mais c'est surtout le maintien en emploi des seniors et les conditions de travail et les aménagements de fin de carrière pour que on puisse lutter contre l'usure professionnelle et puis qu'on envisage aussi la transition professionnelle et la reconversion professionnelle de manière plus simple, plus opérationnelle. C'est ça l'enjeu de la négociation ce soir. Pas spécifiquement l'assurance chômage.
Ouais.
Ça, ce sera un sujet à aborder plus tard.
Et l'un étant connexe à l'autre, mais effectivement, là spécifiquement, on est là-dessus. En un mot, Olivier Guivarch, qu'est-ce qui se passe si vous vous mettez pas d'accord?
Eh bien,
parce que vous n'avez pas discuté toute la semaine. Vous avez déjà fait du RAB. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord?
S'il n'y a pas d'accord, cela veut dire que l'ensemble des organisations patronales et syndicales communiquent leurs idées, essayent de convaincre l'exécutif des mesures à prendre. Et puis, ça sera ensuite des discussions avec la démocratie politique. Mais nous sommes ce soir déterminés à trouver une voie de passage pour que la démocratie sociale puisse produire, malgré tout, un compromis.
C'était le sens de ma question. Est-ce qu'on s'achemine vraiment, parce que ça fait aussi partie des discussions, vers la fin du paritarisme? Enfin, est-ce qu'on est vraiment dans ce moment-là où on peut effectivement basculer vers autre chose?
Ça, c'est difficile à dire à cette heure. Je pense qu'il ne faut pas avoir de propos excessifs. Par contre, il faut rappeler que finalement, le sens de tout ça, c'est de s'occuper des travailleuses et des travailleurs à qui on a demandé des efforts parce que l'âge légal de départ à la retraite a été reculé de 2 ans. C'est difficile aujourd'hui d'expliquer à des salariés qui vont travailler plus longtemps alors que rien ne change, que le taux d'emploi est mauvais pour les seniors en France, qu'il faut faire des efforts pour le maintien en emploi dans de bonnes conditions. C'est difficile de dire à ces salariés rien ne change, on ne change pas les préjugés, on ne change pas la culture RH, on ne change rien. Ce n'est pas entendable et c'est pour ça qu'on est déterminé.
Stéphane Carcillo, quand on entend, parce que je voudrais revenir au témoignage d'Éric, quand on entend ce témoignage-là et la difficulté effectivement du retour en emploi, la question qu'on a envie de poser, c'est par quel bout on le prend et surtout à quel moment on devient, j'allais presque dire, coercitif. En fait, avec les entreprises, on parlera peut-être du bonus-malus. À quel moment on oblige les entreprises à maintenir les seniors dans l'emploi pour éviter des situations comme celle de, comme celle qu'Éric nous raconte?
Le sujet, c'est vraiment le sujet de la discrimination des seniors, qui est une vraie réalité. Éric a fait un testing individuel.
Et là, Éric, il a 54 ans. Ouais. Quand il est viré, avec 54 ans, là.
Voilà. Et il a fait un petit test individuel, hein, en changeant son âge sur son CV, et tout de suite, ça change le retour des employeurs. Donc
c'est dramatique.
Alors, au niveau national, on arrive à faire des testings à très grande échelle, en prenant un secteur donné, des vraies offres d'emploi, et en envoyant des CV fictifs avec des parcours qui sont comparables simplement, et la même expérience dans l'emploi considéré, mais simplement on change l'âge, et on voit que le taux de réponse chute parfois de moitié dès lors qu'on dépasse les 50 ou 55 ans. Donc il y a un vrai sujet de discrimination à l'embauche des seniors, et je crois que un des gros enjeux aussi de la négociation, c'est d'arriver à travailler sur ce sujet-là. Il faut absolument, c'est très clair, accompagner la réforme des retraites, c'est indispensable. C'est vrai que quand on change l'âge de la retraite, on tire et on maintient en emploi, on tire employeurs et salariés plus longtemps en emploi de manière, entre guillemets, automatique, même s'il n'y a pas vraiment d'automaticité, mais pas pour tout le monde. Ça marche dans 50-60% des cas, mais dans 30-40% des cas, on n'arrive pas à maintenir les personnes en emploi, et donc là, il faut clairement prendre des mesures à la fois, soit coercitives, entre guillemets, coercitives, ou très incitatives.
Oui, c'est le sens.
Et je crois qu'il faut vraiment lutter contre ces éléments de discrimination. On a fait des choses très très bien en matière de transparence salariale pour l'égalité homme-femme. Vous savez, c'est l'obligation de publication chaque année de l'écart de salaire homme-femme. On pourrait imaginer des choses similaires pour les seniors. Les seniors se font discriminer à l'entrée, c'est-à-dire à l'embauche, et à la sortie, pendant les licenciements. On aimerait bien avoir aussi une transparence sur les chiffres de la éventuelle surreprésentation des seniors dans les plans de départ. Voilà, cette information, cette transparence, elle est très importante, parce que les entreprises n'aiment pas afficher des choses comme ça, et ça peut être un des mécanismes qu'on peut imaginer.
Il y avait au milieu des mécanismes, au milieu des idées, cette histoire de bonus-malus, effectivement, où ça coûte plus cher à une entreprise de licencier un senior, par exemple. Est-ce que ça fait partie des pistes qui sont effectivement des pistes qui vous semblent intéressantes à suivre?
Alors moi, ça me semble très intéressant, parce que c'est un dispositif qui existe d'ailleurs déjà dans le cadre de l'assurance chômage pour des secteurs particuliers, qui existe à l'étranger. L'idée, simplement, c'est que quand on licencie beaucoup de seniors, ça va avoir un coût important pour l'assurance chômage, parce que ces personnes, une fois au chômage, ont tendance à y rester beaucoup plus longtemps que des personnes plus jeunes, et ça devrait impacter la contribution de l'entreprise au régime d'assurance chômage. C'est le malus. En revanche, si on conserve les seniors en emploi pendant longtemps, on n'a pas d'impact négatif, et dans ces cas-là, on devrait avoir une baisse des contributions à l'assurance chômage. Ce phénomène de bonus-malus, ça marche, c'est-à-dire que les entreprises ont des marges de manœuvre pour ajuster leur comportement. On l'a vu dans le cadre du bonus-malus à l'assurance chômage. On voit les premiers résultats sur l'allongement de la durée des contrats, parce qu'aujourd'hui, le bonus-malus, c'est vraiment sur la durée du contrat. On voit des ajustements de comportement. Ça marche aussi à l'étranger. C'est en place depuis très très longtemps aux États-Unis, et ça a un impact très clair.
Olivier Guivarch, là-dessus, et sur ce fameux CDI senior, alors je sais que vous ne pouvez pas rentrer dans le gros et dans le vif des négociations qui ont lieu en ce moment, mais il est venu très largement sur le tapis, il est même sur la table, le fameux CDI senior. Particulier, qu'est-ce qui pose problème avec cette histoire de CDI senior? Pourquoi ça ne rentre pas dans les cases?
Déjà, c'est important de rappeler aux auditrices et aux éditeurs que ce n'est pas l'enjeu principal de la question de l'emploi des seniors, parce que les seniors ne sont pas très touchés par le chômage. Le problème, c'est quand les seniors sont au chômage, et Éric, son témoignage était...
Mais c'est qu'ils ne retournent pas à l'emploi.
Voilà, était très important, très éclairant, parce qu'il a expliqué qu'il n'arrivait pas à retrouver un emploi. Donc, le chômage des seniors, il dure, ils sont en moyenne beaucoup plus longtemps au chômage, et il faut les accompagner, il faut les aider, et il faut lutter contre les préjugés des employeurs. Mais le principal sujet sur l'emploi des seniors, c'est les conditions de travail, c'est le sens au travail, c'est l'accès à la formation professionnelle, c'est la possibilité de faire des transitions professionnelles, de changer d'emploi malgré tout à 10 ans de la retraite, à 5 ans de la retraite, c'est encore possible si on réunit les conditions. C'est ça qui est important, et c'est pour ça que la CFDT parle beaucoup de travail dans cette négociation et qui va parler travail dans les mois à venir, parce que c'est vraiment l'enjeu majeur après la retraite.
On va retourner au standard. Un mot juste, Yael Gauz, on l'a évoqué avec Olivier Guivarch à l'instant sur le paritarisme et l'idée que c'est la main, l'État qui reprenne la main et définitivement et de manière définitive sur l'assurance chômage. Est-ce que je vais le dire comme ça, est-ce que c'est un souhait, une envie et au fond les problèmes seront bien réglés si c'est l'État qui prend la main sur tout?
Bah, c'est plus qu'un souhait, c'est un objectif qui est poursuivi depuis longtemps. Mmh. C'est même pas très nouveau dans le dans l'esprit d'Emmanuel Macron, même quand il était à Bercy à l'économie, c'est cette vision qu'il avait aussi, ce pilotage et cette négociation qui est en cours de calage sur l'emploi des seniors. La nouvelle convention sera obsolète si Gabriel Attal annonce une nouvelle réforme. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc là, on est dans un entre-deux, on sera bientôt fixé, et du côté de Gabriel Attal, tout l'enjeu, c'est de faire réussir à passer dans l'opinion cette réforme comme étant une réforme pour aller vers le plein emploi. Donc positiver entre guillemets sa réforme au sens où on redonne du travail et de l'activité aux chômeurs, et ne pas qu'elle soit interprétée, et c'est en ce moment c'est plutôt cette vision-là que les Français ont sans doute, en tout cas que les oppositions politiques ont et les syndicats ont aussi, c'est une vision beaucoup plus punitive de renflouer les caisses, un signal envoyé étrangement, tactiquement peut-être, à quelques jours des premières notations, des agences de notation, fin du mois, en avril, puis ensuite fin mai. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un biscuit, entre guillemets, donné pour montrer que l'État fait les efforts nécessaires pour réduire son déficit après le dérapage 5,5% de déficit public? Ou est-ce que c'est vraiment le plein emploi à la Macron?
Et on a senti que ça a tangué, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il fallait remettre du sens. Et remettre du sens, ça voulait dire attention, on est en train de dévier effectivement vers une discussion qui est une discussion budgétaire, et c'est exactement ce que nous ne voulons pas.
Il a passé une tête hier après-midi à l'Élysée auprès d'Alexis Kohler et des responsables de la majorité. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, il a passé une tête pour dire attention là, on part de travers. Effectivement, faut remettre du sens. Faut pas que ça soit la foire à la saucisse. Hein, ce sont ses mots, parce que aujourd'hui, il y a une telle course à la mesure miracle pour rattraper le déficit, qu'aujourd'hui même le faire sur le dos des chômeurs peut être très très mal interprété. Parce qu'un chômeur, ça manifeste pas. Hein.
Oui, oui.
Un chômeur, ça se mobilise pas, ou très peu, très difficilement. C'est un peu l'impensé, parfois même des syndicats. Hein.
Et Comté, il le disait notamment dans son premier discours sur ces classes moyennes qui travaillent et qui contribuent à faire fonctionner le modèle social pendant que d'autres n'ont pas besoin de travailler. C'était quasiment ça dans les mots qui a été prononcé. Olivier Guivarch, très vite, on retourne au standard juste après.
Oui, là, je voudrais dire que la CFDT s'oppose à cette idée totalement fausse d'opposer des classes moyennes ou des personnes qui travaillent et puis la classe des chômeurs. Ça n'existe pas. Le chômage, c'est quelque chose qui touche potentiellement n'importe qui du salariat privé. Tout le monde peut connaître le chômage. C'est souvent lié à des accidents de la vie, mais pas que. Et c'est un moment, et donc ça n'a pas de sens de dire que c'est une classe qui serait à opposer à la classe laborieuse.
Une question très concrète, c'est la vôtre. Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Olivier.
Voilà, moi je faisais la comparaison avec l'assurance auto. On n'a jamais démontré que la baisse des remboursements baissait le nombre d'accidents. Et j'ai entendu l'autre jour la porte-parole du gouvernement à qui on posait la question, mais est-ce qu'il y a des études qui démontrent que la baisse de la durée de cotisation, de la durée de
d'indemnisation,
pardon, contribuait au retour à l'emploi plus rapide. Elle n'a pas su répondre. Je voulais savoir si vos intervenants avaient une réponse et est-ce qu'il existait des études qui vont dans un sens ou dans l'autre.
Et il y a Stéphane Carcillo qui fait oui avec la tête. Est-ce qu'on peut répondre très concrètement à cette question? Est-ce que rendre plus difficile l'accès au chômage, ça marche
en fait? Alors il y a deux sujets, il y a l'accès et il y a la durée. Hein, donc il y a la durée minimale qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir ouvrir un droit à l'assurance chômage. Et là, on a des études qui montrent qu'effectivement, les durées de travail s'ajustent à la durée minimale qu'il faut avoir travaillé. Quand on est passé, par exemple, en 2009 de 6 mois minimum de travail à 4 mois, ce qu'on a vu dans les données en France, c'est une augmentation très forte des CDD de 4 mois, juste pour pouvoir ouvrir les droits. Lorsqu'en 2021, on est passé de 4 mois à 6 mois, à l'inverse, c'est une étude de la DARES, du ministère du Travail très récente, ce qu'on a vu, c'est un effet très très positif sur le maintien en emploi à la fin d'un CDD. également. Donc ça joue dans sens inverse. C'est pas le cas pour tout le monde, parce que les situations sont très très diverses, ça c'est des moyennes, évidemment il y a des gens qui n'ont pas de marge de manœuvre, mais en moyenne, on voit un effet. Maintenant, à la sortie, la durée potentielle, alors là on a beaucoup d'études, hein, on en a des dizaines, qui s'intéressent au parcours des demandeurs d'emploi et qui regardent, selon la durée du droit, quelle est la durée de l'épisode de chômage. Et là on voit qu'on a une sensibilité très claire, quand vous augmentez de un mois la durée maximum potentielle du droit au chômage, vous augmentez la durée de l'épisode de chômage de 0,3 mois, c'est-à-dire environ une dizaine de jours. Ça, c'est la sensibilité qu'on a dans toutes ces études. Et évidemment, quand l'économie va mal, il n'y a pas de sensibilité parce qu'il n'y a pas d'emploi. Mais quand l'économie va plutôt bien ou que le marché du travail est très tendu, alors là, la sensibilité, elle est encore plus forte. C'est-à-dire que quand vous réduisez les droits, la durée potentielle du droit, vous avez finalement des demandeurs d'emploi qui se mettent à chercher plus tôt. Et en fait, il y a une étude récente sur données françaises où on a suivi 400 000 demandeurs d'emploi sur plusieurs années. On a regardé quel était leur comportement de recherche d'emploi. Et ils cherchent en général, dans les trois derniers mois qui précèdent l'épisode de chômage, parce qu'en général, ils sous-estiment le temps qu'il faut pour retrouver un emploi. Et dans les trois derniers mois, leur nombre d'offres, leur nombre de candidatures augmente de 50%. Donc en fait, on voit bien le mécanisme. Hein. Le mécanisme, c'est qu'évidemment, on a tendance à attendre un petit peu trop longtemps. Et voilà.
Alors évidemment, je fais déjà non avec la tête, évidemment. Oui. Mais moi, je parle des données. J'entends, hein, mais est-ce qu'on sait dans vos données de quel emploi on parle? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle en général de retrouver un emploi qui est conforme à celui qu'on a perdu? Ou est-ce qu'on parle de retrouver un emploi qui n'a rien à voir parce que effectivement la fin de droit arrive, ou parce que, comme on le sait désormais, on n'a pas le droit de refuser plus de 2 CDD, etc. Alors, est-ce qu'on sait quelle est la nature de l'emploi?
Oui, tout à fait. Alors, on étudie aussi la qualité des emplois. En fait, la qualité des emplois en France, il y a eu des études qui ont été faites sur ce sujet. Quand on passe de 16 mois ou 18 mois à 12 mois, on ne voit pas véritablement d'effet sur la qualité de l'emploi. C'est-à-dire, on voit pas d'effet sur la baisse du salaire, par exemple, ou sur la durée du contrat. Maintenant, ça veut pas dire que si on passait évidemment à 6 mois d'indemnisation, il y aurait pas des effets. Ces effets sont pas du tout, voilà. Aujourd'hui, on parle d'une indemnisation qui est longue en France, hein, parce qu'on est à 18 mois. Avec 18 mois, la durée moyenne d'indemnisation maximale dans les pays de l'OCDE, c'est 13 mois. Ouais, hein, en Allemagne, c'est 12 mois.
L'Allemagne a 12 mois, ouais.
Donc on est dans une durée qui reste, malgré la réforme, très, 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 très longue, très protectrice. On peut penser que dans une période où le marché du travail reste très tendu, les employeurs ont énormément mal à recruter.
Et c'est le cas.
On pourrait baisser sans détériorer la qualité de l'emploi, parce que les études dont on dispose, dans ces ordres de grandeur-là, aujourd'hui, autour de 12 mois, ne montrent pas de détérioration. Maintenant, ça, c'est les données qui démontrent ça sur des centaines de milliers de parcours. Évidemment, les situations sont très hétérogènes.
Avant de donner la parole autour de la table, juste une dernière chose pour conclure là-dessus, Stéphane Carcillo. Est-ce que la dernière réforme, qui est très récente, a déjà montré ce genre d'effet, ou est-ce qu'on ne peut pas faire ce genre de calcul pour l'instant?
Alors, la dernière réforme, non, parce qu'elle vient juste de rentrer elle vient juste d'être mise en œuvre.
C'est peut-être ça le problème, c'est qu'on est à la troisième réforme, si je ne m'abuse, c'est celle d'Attal est la troisième depuis 2019.
Et nous avons une convention signée à la fin de l'année dernière. Nous allons demain matin peut-être signer un avenant à cette convention. Nous attendrons à ce moment-là l'agrément. Et pour que les auditrices et les auditeurs comprennent, c'est que ce serait pour une mise en œuvre au 1er juillet. Et on nous parle d'une énième réforme.
Voilà,
et
sans avoir pu
pour expliquer
faire l'évaluation de chacune. On n'a pas les évaluations à chaque fois.
Pour expliquer à ceux qui nous écoutent, janvier 2019, radiation plus systématique, le fameux rendez-vous appel emploi, les deux refus. 1er novembre 2019, le durcissement des conditions d'accès. 1er novembre 2019, la diminution des indemnisations pour les hauts revenus notamment, et l'ouverture aussi au chômage pour les indépendants et pour les démissionnaires. 1er octobre 2021, nouveau calcul d'allocation, ce qui avait été retoqué par le Conseil d'État. Je voudrais être sûr de ce que je dis. C'était celui-là. Et 1er septembre 2022, le fameux bonus-malus et l'histoire des mécanismes contracycliques que peut-être on expliquera. Mais effectivement, on est dessus quasiment de manière ininterrompue depuis 2019.
Oui, mais une des raisons pour lesquelles on est dessus depuis de manière ininterrompue, c'est que le marché du travail reste extrêmement tendu et qu'on a l'impression qu'aujourd'hui en France, avec 7 ou 7,5% de chômage, on a un marché du travail qui n'arrive plus à fonctionner et des offres d'emploi qui restent vacantes dans des proportions plus importantes qu'avant le Covid. Et donc, on sait qu'il y a cette sensibilité à la durée. Évidemment, il faudra évaluer les réformes françaises, mais on sait en moyenne, par l'expérience du passé en France, par l'expérience dans d'autres pays, que c'est sensible dans ces périodes de forte tension du marché du travail. Donc le gouvernement veut aller plus vite, plus rapidement, sans attendre.
Allez-y, Olivier Guivarch, et puis il faut qu'on retourne au standard aussi.
Oui, je pense qu'il faut s'appuyer sur la réflexion d'Olivier, qui était tout à fait intelligente. C'est qu'il a rappelé que l'assurance chômage, c'est une assurance à un risque. C'est-à-dire qu'un salarié qui perd son emploi involontairement a le droit d'être indemnisé. C'est une assurance et c'est très important parce qu'on peut être touché par le chômage. Ça peut arriver à n'importe qui et c'est important que les salariés puissent savoir qu'ils vont être accompagnés et qu'ils vont être indemnisés pendant une certaine période. Je voudrais ajouter qu'il y a eu beaucoup de réformes. Et que aujourd'hui, les études du ministère du Travail disent pause, il faut évaluer. On n'a pas tout évalué et surtout les réformes récentes, elles touchent les plus précaires. Elles touchent les moins de 25 ans. Elles touchent les personnes qui sortent d'un CDD. Elles touchent les personnes qui sortent de missions d'intérim et elles touche les personnes qui sont les moins qualifiées, qui ont le niveau d'études le plus bas. On est en train de s'attaquer et de s'acharner sur des personnes qui sont déjà en difficulté. Et on pense que dégrader les conditions d'existence des chômeurs, c'est arriver au plein emploi. C'est une idée fausse.
Alors justement, j'allais même faire un
Esther Duflo, économiste, le dit. C'est quand même fou qu'on n'écoute pas une grande économiste du Collège de France.
On va tâcher de jouer un peu à ce vrai du faux parce qu'on a entendu beaucoup de choses dont on ne sait pas très bien quoi en penser. Un mot, Yael, très vite.
Juste pour avoir un petit peu la big picture, comme on dit en anglais, hein, on prend du recul, on regarde la photo globale. Combien de sans-emploi en France? Entre 5 et 6 millions. Combien d'indemnisés sur ces 5
millions?
Moins
de la moitié.
À peine 40%. Dans ces 40% indemnisés, la moitié sous le seuil de pauvreté.
Et la moitié travaille. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un emploi d'assez bonne qualité. Ils subissent du temps partiel. Ils subissent une rémunération moindre. Et ils touchent une petite indemnité en plus de leur travail. C'est dire
pourquoi on
la
dit
qualité
ça, pourquoi
de l'emploi.
Dire ça, pourquoi dire ça? Parce qu'on est dans un discours politique qui vise, en tout cas dans les premiers mots, même si Attal corrige maintenant, parce que Emmanuel Macron lui demande de corriger, de faire donner du sens à la réforme, les premières intonations, c'était de montrer du doigt des gens qui sont improductifs. Alors que les classes moyennes travaillent, opposer les bons et les mauvais Français. C'était ça le premier signal. Le cadre qui part 2 ans faire le tour du monde sur ses allocs. Ça c'est un cliché.
D'assurance chômage, et ça s'appelle le téléphone sonne. Cette pauvre Lisa nous attend depuis 26 minutes. Bonsoir Lisa.
Oui, bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter, on vous écoute.
Moi je voulais quand même interroger sur le fait que les durées d'indemnité se réduisent de plus en plus et avec les multiples réformes qui ont été validées, notamment la réforme des retraites, on nous dit qu'il faut se former tout au long de la vie, on nous dit qu'il faut ne pas hésiter à basculer d'un secteur à un autre et finalement, avec une indemnisation chômage de plus en plus courte, eh bien les formations ne pourront pas être suivies parce que le temps de chômage va être pris par la formation et derrière on va se retrouver à être basculé sur un nouveau secteur d'emploi dans lequel on n'est pas expérimenté, sur lequel on est nouvel arrivant et finalement on va se retrouver encore plus dans la précarité, encore plus dans l'insécurité. Donc est-ce que finalement les réformes se succèdent, mais est-ce qu'on pense à la logique de tout ça et au fait que lorsqu'on est au chômage, eh ben on peut aussi avoir besoin d'un certain temps pour mieux se réinsérer et trouver un meilleur emploi que celui d'avant.
Merci beaucoup Lisa. Qu'est-ce qu'on répond à Lisa, Stéphane Carcio?
Lisa a raison, il faut du temps pour trouver un emploi de bonne qualité, évidemment. La question est de savoir, lorsque le marché du travail, est-ce qu'il faut 18 mois ou est-ce qu'il faut 14 mois? Voilà, c'est pas évident. Le sujet, c'est vraiment la question de l'effectivité de la recherche d'emploi. Et donc, il y a un gros sujet sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Je pense que c'est un sujet sur lequel la France a fait beaucoup de réformes et la création de France Travail, mais dans lequel, à mon avis, on peut encore s'améliorer sur l'amélioration de l'accompagnement de la recherche d'emploi. Mais c'est vrai que dans un marché du travail qui demeure extrêmement tendu, des offres d'emploi, il y en a de manière vraiment de manière considérable en ce moment, qui ne sont pas encore pourvues. Et on voit surtout, je voudrais le dire, on voit surtout que les demandeurs d'emploi ont aussi des marges de manœuvre pour pouvoir ajuster le moment où ils recherchent de manière très intensive un emploi, ça a un effet sur le taux de sortie du chômage. On voit que les personnes qui sont en CDD ont aussi des marges de manœuvre pour une partie d'entre elles, pas pour tous à nouveau, hein, mais en moyenne, on voit que les comportements s'ajustent, la durée des contrats s'ajuste. Les employeurs aussi ont tendance à allonger la durée des contrats lorsqu'ils savent qu'il faut au minimum 6 mois contre 4 mois auparavant pour avoir droit à l'assurance chômage. Eux aussi s'ajustent leur comportement et donc ça tire la durée du travail vers le haut. Donc je crois qu'il faut, quand même garder en tête que il y a quand même une capacité d'ajustement dès lors que l'économie crée des emplois, ce qui a été le cas en France de manière très conséquente. Il faut savoir, comme vous l'avez dit, que les demandeurs d'emploi pour moitié travaillent, mais je pourrais renverser l'argument, puisque pour moitié ils travaillent, pour moitié ils peuvent probablement rester un peu plus longtemps en emploi, si les conditions de renouvellement des droits s'allongent. Et donc, on voit ces choses dans les données.
Moi, j'ai un chiffre sous les yeux qu'on m'a glissé dans l'oreillette et qui dit que en 1987, donc il y a presque 40 ans aujourd'hui, une compétence professionnelle, ça durait 30 ans. Aujourd'hui, une compétence professionnelle, ça dure 2 ans. Est-ce que ça change pas tout sur le marché de l'emploi quand on est face à des chiffres comme cela? Et ça rejoint la question de notre amie Lisa et sa difficulté à se former pendant sa période de chômage pour pouvoir retrouver quelque chose derrière.
Ça rejoint la négociation en cours. C'est-à-dire que nous réfléchissons aussi à tous les dispositifs de transition et de reconversion professionnelle, d'accès à la formation, pour que on puisse avoir un marché du travail dynamique et que surtout il y ait une forme d'assurance transition emploi, c'est-à-dire que les salariés puissent oser tenter un nouveau métier, puissent se dire qu'ils peuvent faire autre chose et qu'ils seront sécurisés pendant cette période entre le moment où ils quittent leur emploi et le moment où ils trouvent un nouvel emploi. Et ça nous permettrait d'avoir, je dirais, des salariés rassurés et dynamiques. Mais je voudrais aussi dire que derrière les moyennes qui nous sont données, il y a des femmes et des hommes qui ne choisissent pas les contrats courts qu'on leur propose, qui ne choisissent pas les conditions de travail dans lesquelles ça se fait. Et donc c'est important quand même de voir qu'il y a des existences, quoi. Et ces personnes-là ont vraiment besoin d'être accompagnées. On ne choisit pas d'être au chômage, on le subit et on a besoin d'être indemnisé et accompagné.
Une question sur WhatsApp. Pourquoi ne pas mieux accompagner les chercheurs d'emploi? En Suisse, nous dit cet auditeur, auditrice qui s'appelle Daniel, en Suisse c'est 18 mois, mais chaque chercheur est très encadré. Et autre point, pourquoi ne pas faire une différence entre une personne active ayant cotisé 10 ans et celle ayant cotisé 2 ans? Merci beaucoup et bonne soirée, nous dit Daniel. Une réponse, Stéphane?
Oui, c'est vrai qu'en France, il y a une particularité, c'est que on accumule des droits à l'assurance chômage assez tôt et surtout très très vite. C'est-à-dire que jusqu'à la réforme, il y a très peu de temps, c'était un jour travaillé, un jour cotisé. Maintenant, c'est un petit peu moins, puisque quand on a travaillé 2 ans, on a 18 mois avec la dernière réforme, en période de chômage relativement bas. Si l'économie se retourne et que le chômage monte au-dessus de 9%, on repassera à 24 mois. Mais dans d'autres pays, l'accumulation des droits est beaucoup plus lente. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui ont travaillé 10 ans ou 15 ans ou 20 ans ont droit à ces 24 mois maximum. Mais du coup, les personnes qui n'ont travaillé que 5 ans ou 4-5 ans ont des droits maximum qui sont beaucoup plus faibles, autour de 10, 8, 10 mois. Donc il y a une progression beaucoup plus... C'est beaucoup plus étalé au cours des carrières et il y a moins cette concentration de l'accumulation des droits uniquement autour des 2 ans de travail comme en France.
Une question de François sur franceinter.fr. Quid des ruptures conventionnelles, nous dit-il. Je suis chef d'entreprise et nombre de mes salariés y ont recours et surtout les plus jeunes, ce qui leur permet de toucher le chômage et c'est très difficile à refuser. Ne faudrait-il pas réformer cela, Olivier Guivarch?
Non, la CFDT a rappelé qu'en fait, on est souvent dans... alors d'abord, il ne faut pas être caricatural, hein, on est souvent dans des situations où les personnes dont on parle, là, retrouvent très facilement un emploi. Donc ça, ouais, ça ne coûte pas au régime. Hein. Le régime d'assurance chômage, c'est compliqué pour les personnes qui ont de grandes difficultés pour retrouver un emploi. Pas pour des personnes qui accumulent des expériences et qui peuvent se retrouver au chômage quelques semaines. Il faut vraiment se dire que il y a des réalités qui sont vécues, qui sont difficiles à vivre. Et c'est très important que l'assurance chômage reste une assurance. Et j'ajouterais aussi le fait que l'assurance chômage ne doit surtout pas devenir un instrument politique avec une réforme par an. Ça fait 60 ans qu'on s'occupe de ce régime, entre organisations patronales et syndicales. On ne va pas changer les règles de l'assurance chômage tous les 6 mois, ça n'a pas de sens. Il faut de la visibilité, il faut évaluer les réformes qu'on entreprend. Et puis ce régime, aujourd'hui, il est excédentaire, c'est-à-dire qu'il permet de financer la politique publique de l'emploi, et le gouvernement devrait plutôt mettre des moyens sur la politique publique de l'emploi que de vouloir dégrader les conditions d'existence des chômeurs. Et ça nous permet même de réduire la dette.
Un dernier mot, Stéphane Carcillo, je voyais que vous réagissiez.
Oui, non, juste sur la rupture conventionnelle, pour dire, je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas toucher à ça, parce qu'en fait, ça permet, certes, de rompre certains contrats plus facilement, mais ça permet aussi, et ça incite les TPE-PME à créer plus facilement du CDI. Parce qu'elles savent que derrière, la rupture du contrat sera quand même moins compliquée. Donc en fait, ça se compense sur les effets de l'assurance chômage, ça permet des sorties plus rapides du chômage, et du coup, je pense que c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas revenir.
Et puis, ce serait bien que la démocratie politique écoute la démocratie sociale, puisque les organisations patronales et syndicales ne demandent absolument pas de changement à ce niveau-là.
Oui, juste d'un mot, les chômeurs ne manifestent pas, mais dans la majorité, le débat ne fait que commencer, que monter avec des divisions. On a vu Elisabeth Borne quand même tweeter son mécontentement de voir qu'on ne respectait pas le caractère contracyclique de la réforme, c'est-à-dire plus de protection quand ça va mal et quand ça va mieux, moins de protection. Aujourd'hui, le chômage remonte. Et là, la réforme telle que Gabriel Attal la propose est une régression des protections.
Il nous reste une question, c'est la vôtre, Eric. On a très peu de temps, mais je vous en prie, allez-y.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour la qualité
vous allez
de
être
vos
court.
Émissions. Bonsoir à vos intervenants. En fait, je suis artiste-auteur photographe et je m'aperçois que bien souvent, on parle du monde du salariat, mais on ne parle pas de tout ce qui est artiste, auteur, etc. Là, pour l'instant, certains peuvent bénéficier de l'ASS, mais Monsieur Attal, semble-t-il, souhaite supprimer cette chose-là pour faire basculer tout le monde sur l'ARE. Ouais. Donc, il n'y aura plus de cotisation en vieillesse. Et donc, du coup, comment ça va se passer pour nous qui sommes un peu les saltimbanques, entre guillemets, et pas tellement visibles dans tout le monde dont vous parlez, le monde du salariat.
Merci beaucoup, Eric. Très rapidement, pardon, parce qu'il nous reste très peu de temps, la suppression de l'allocation solidarité spécifique. Olivier Guivarch.
C'est très dommageable, puisque on va augmenter la pauvreté, on va faire en sorte que des personnes ne cotisent plus justement pour leur retraite, et donc on va déplacer le problème.
C'est qu'on cotise à sa retraite quand on est à la SS, on ne cotise pas à la retraite quand on est au RSA.
Exactement, et donc on va déplacer le problème.
Et donc on met tout le monde au RSA.
Oui, et donc on va se retrouver avec des personnes qui vont basculer dans la pauvreté et qui, quand elles pourront prendre leur retraite, auront une pension plus petite. Donc on génère de la pauvreté, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'une telle réforme.
Est-ce qu'on est très rapidement, vous avez vraiment 8 secondes, mais je ne veux pas qu'on termine sans que vous ayez pu prendre la parole, Stéphane Carcillo. Est-ce qu'on nivelle par le bas, au fond, quand on supprime la SS, qu'on met tout le monde au RSA?
En fait, le système actuel traite des gens qui peuvent être totalement comparables, dans des situations très comparables, de manière très différente, selon qu'on a travaillé longtemps avant ou pas, ou 5 ans de manière continue. On a le droit à la SS, sinon on va au RSA. Donc il y a un double traitement aujourd'hui, qui est sur lequel il faut effectivement revenir, à mon avis. Le RSA, c'est le dispositif de base qui est le mieux conçu, et donc il est assez logique de revenir. D'ailleurs, c'est le cas de figure dans la plupart des pays. On a très souvent un dispositif de dernier recours.
Vous avez entendu les bips, ça veut dire qu'on est en retard, mais je voudrais quand même qu'on écoute la question des petits bateaux. C'est celle de Serge qui a 9 ans. Non, on n'écoute pas la question des petits bateaux. Eh ben, il est 20h.